Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, changement de climat, changement de décor. L'association basque écologiste Bici n'en est pas à son coup d'essai, mais le 6 octobre dernier, elle a réussi un coup de maître.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, elle est fraîche, elle est joyeuse, la transition, venez la découvrir, approchez, approchez.
Quand vous arrivez, vous mettez ça dans la boîte, et vous fermez, et vous laissez une heure et demie, et c'est cuit. Le gaz électrique, c'est 50% de l'économie, parce que vous faites 10 minutes pour faire une soupe à légumes. Vous laissez combien de temps? Une heure et demie? Avec ça, c'est 10 minutes.
On a lancé un petit livret aussi qui explique un petit peu la procédure pour accompagner les gens dans leur envie de composter leurs biodéchets.
Cette journée des alternatives à Bayonne, c'est d'abord un succès dans l'espace. C'est un village des alternatives qui s'installe dans la ville, qui prend tout un quartier, qui fait fuir les voitures, les remplace par des piétons, de la musique, des enfants, des vélos, un autre mode de vie.
Ouais, l'idée, de toute façon, c'était ça, c'était de montrer aussi la ville libérée de la voiture, qu'est-ce qu'on peut en faire? La ville libérée de la voiture est livrée à l'imagination des gens. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est-à-dire récupérer l'usage de nos rues pour les repas de quartier, les jeux des enfants, les rencontres entre les gens, mettre des bancs dans tel coin et pouvoir s'asseoir et regarder les gens passer, etc. Et ça, je pense que ça contribue à ce sourire qu'on voit sur le visage de tous les gens aujourd'hui. Il y a le beau temps, il y a le fait que ça soit réussi à fond. Et puis, il y a cette redécouverte de sa propre ville libérée de la voiture. Et ça, je pense que c'est assez extraordinaire.
Bon, en même temps, ça s'inscrit aussi dans une tradition à Bayonne. Il y a des journées où la ville est livrée comme ça aux promeneurs, les fêtes de Bayonne. C'est déjà ça, non?
Voilà, il y a les fêtes de Bayonne et puis il y a la fête de la musique. Mais c'est justement ces moments qui marquent les gens. Et le problème, c'est que ce sont des exceptions, alors que ça pourrait être vraiment la qualité de vie. Quand on pense que la voiture prend 40% de la surface urbaine, les routes, les parkings, les ceci, les cela, etc., on se rend pas compte à quel point... vous savez, ici, sur le BAB, mais je pense que c'est le BAB Biarritz-Anguette-Bayonne, mais je pense que c'est les mêmes moyennes dans l'Hexagone. On estime que la moitié des trajets en automobile font moins de 3 km. Et on estime que la moyenne des gens qui se trimballent en auto, c'est 1,3 passagers par véhicule. Alors, ça veut dire que, en fait, c'est des personnes qui font moins de 3 km et qui, pour ça, amènent une tonne de métal avec eux. Et pour ça, on consacre 40% de la surface urbaine. Alors que pour les jeux pour les enfants dans la rue, etc., on a très peu de place ici dans ce quartier. On manque complètement de place pour jouer avec les enfants, de place comme il y a en Pays Basque Sud où les personnes âgées peuvent rester dans la rue, s'asseoir, vivre avec les autres générations, etc. Et voilà. Et donc Alternativa, ça donne le goût de ça, ça donne le goût de toutes ces alternatives qui sont porteuses du monde de demain. Et en soi-même, le village des alternatives donne le goût de ce que pourrait être la ville demain.
Ça donne le goût et c'est relayé par toutes ces actions que Bici mène pendant toute l'année de manière plus locale sur la place de la voiture, la place du vélo.
Oui, là, nous, on mène un gros combat ici parce que on est dans une agglomération où les gaz à effet de serre, c'est quasiment 70% le transport qui en est la cause. Il y a bon, évidemment l'aéroport de Biarritz avait 200 000 tonnes sur 1 100 000 tonnes, mais les transports de voitures représentent 400 000 tonnes sur 1 100 000 tonnes. Donc c'est un enjeu central et nous on se bat effectivement pour des transports collectifs en site propre, pour des pistes cyclables, un développement de l'usage du vélo, mais pour les besoins quotidiens, hein, aller au travail, amener ses enfants à l'école, etc. C'est tout ce que montre justement l'espace alternatif auto-voiture de, qui est un des 15 espaces de ce village. Et puis c'est Bissy, mais c'est aussi, je vais souligner quand même les dizaines et centaines d'associations qui travaillent ici à développer des alternatives à tous les niveaux. Et ces alternatives, c'est le fruit et la réunion de tout ce travail et de tous ces centaines de gens qui aujourd'hui sont en train de préparer le monde de demain.
Je danse le pika.
Christophe Cassou, vous êtes climatologue au CNRS, vous êtes contributeur au GIEC, le Groupement international d'experts sur le climat. Vous avez fourni un certain nombre de données numériques pour ce cinquième rapport qui vient d'être publié. Et vous êtes aujourd'hui à cette journée Alternativa organisée à Bayonne sur les alternatives au changement climatique. Alors, je dois dire que j'ai été troublée quand je suis rentrée dans la salle de conférence par l'image qui planait au-dessus de vous et qui illustrait en quelque sorte la conférence. Je ne sais pas si vous l'avez vue, elle était derrière vous. Cette image montrait un iceberg en train de s'enfoncer avec une citation de Victor Hugo qui dit « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu ». Et je me suis demandé si l'idée la plus puissante, c'est celle qui conduit l'Arctique à fondre à toute allure, ou si c'est celle qui conduit à penser qu'il faut sortir de ce guet-apens à toute allure. Laquelle est la plus puissante ?
Alors j'ai choisi de terminer mon intervention par cette phrase-là pour insister sur la deuxième solution. La plus puissante, c'est celle aujourd'hui de changer nos modes de société, notre société, pour essayer de non seulement de s'adapter aux changements climatiques qui sont déjà en cours, qui sont déjà bien entamés, en particulier dans certains pays tropicaux, mais aussi d'atténuer l'effet, l'empreinte humaine sur le climat au cours du prochain siècle, ou notre siècle, en tout cas notre siècle actuel, le 21e siècle.
Tout ça, ce sont des choses qui ont été dites et redites, entre autres par le GIEC, depuis maintenant un certain nombre d'années. Et on se souvient que le quatrième rapport, qui a été publié il y a 4 ou 5 ans maintenant, 2007, avait fait grand bruit.
Oui, effectivement. La force de ce cinquième rapport, en fait, vient dans la confirmation du quatrième. Les conclusions du quatrième rapport de 2007, qui rappelle, le GIEC a partagé le prix Nobel de la paix avec Al Gore pour ses travaux. C'était la première fois dans ce quatrième rapport, dans le rapport de 2007, où il y avait vraiment des phrasés très explicites sur l'action de l'homme sur le climat au XXe siècle. Donc c'était à la limite la première fois que les décideurs ou les économistes financiers, la société civile étaient aussi confrontés à cette conclusion qui était scientifique. Donc comme c'était la première fois, là, peut-être qu'elle a eu un écho, elle a eu un fort écho, mais peut-être un écho où le doute était encore permis. Donc ce cinquième rapport, en fait, renforce ces conclusions et même les confirme et va plus loin dans le sens où il y a une diminution des incertitudes sur l'empreinte de l'homme, sur l'évolution de la température globale de la planète sur les 50 dernières années, sur la fin du 20e siècle.
Le quatrième rapport se disait certain à 90% et ce cinquième rapport se dit certain à 95%.
Voilà, alors ça peut paraître un petit accroissement, mais déjà quand on est à 90, c'est toujours plus difficile d'augmenter. 95, donc là, l'incertitude se réduit et en fait, ce 5% repose sur des bases scientifiques. Hein. La confiance dans les résultats est estimée à partir des bases scientifiques. C'est pas des croyances en une conclusion. Ça se quantifie, ça se mesure. Et donc, par ces mesures qui sont assez complexes, qui reposent sur la mathématique et la statistique, on arrive à cette valeur de 95%.
95% de certitude sur le fait que le climat est en train de se dérégler à cause de l'homme ou sur le fait que la température va monter ou sur le fait que les océans vont monter ?
Le 95% repose sur l'origine humaine ou l'origine anthropique de la variation de la température sur les 50 dernières années. Alors si on lit bien, il y a d'autres phrases qui sont fortes dans le résumé décideur qui disent qu'en fait il y a au moins 50% de cette évolution de la température qui est expliquée par l'activité humaine. Donc là, il y a une nouvelle quantification. La probabilité est de 95% que l'homme soit responsable et on quantifie en plus cette influence de l'homme qui est 50% au moins.
Ensuite, le scénario ou les scénarios ne varient pas tellement d'un rapport à l'autre. C'est-à-dire, comme je viens de l'évoquer, augmentation de la température moyenne, augmentation du niveau des océans.
Il y a une réelle nouveauté dans ce cinquième rapport sur les scénarios. Donc, la conception même des scénarios a changé dans ce cinquième rapport par rapport au rapport précédent.
De quelle manière ?
Alors, les scénarios précédents étaient basés sur des hypothèses socio-économiques, technologiques, démographiques et aussi scientifiques sur l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre au cours du XXIe siècle. Là, le problème a été inversé. La communauté climatique est partie, en fait, du résultat final, c'est-à-dire du climat possible en 2100. Alors, on a quatre scénarios typiques. Le climat à 2100 qui est inférieur à une température à 2 degrés. Et pour son extrême, le quatrième, qui est le climat autour de 4,5-5 degrés. Donc, on est parti du résultat final. Et on a déterminé quelles sont les concentrations de gaz à effet de serre et les émissions de gaz à effet de serre qui sont compatibles avec ce résultat final. Donc l'idée est de dire, en fait, c'est l'idée du climat à la carte. On a le menu climatique de la fin du siècle, donc des années 2100, 2080, 2100. Et on choisit ce menu et comment on arrive à ce menu. Comment on arrive à ce qu'on va manger en 2080, 2100. Donc l'idée est aussi de redonner un petit peu les cartes ou la balle dans le camp des décideurs et des sphères dirigeantes pour dire, bon voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de politique climatique pour arriver au climat inférieur à 2 degrés ou pour arriver au climat à 4,5 degrés ou pour arriver même à un climat à 8 degrés. Quelles sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont compatibles avec ces climats-là ?
Ça me paraît une très bonne idée, Christophe Cassou. Mais alors, est-ce que c'est dans cette même veine que ce rapport du GIEC, le cinquième du nom, inclut un petit chapitre tout à fait curieux sur ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Alors vous avez peut-être rappelé ce que c'est que la géo-ingénierie et nous expliquer comment il se fait qu'elle apparaît tout à coup, alors même qu'elle est extrêmement contestée.
Alors la géo-ingénierie repose sur des technologies qui seraient mises en place pour abaisser la température globale de la planète. Les technologies sont diverses. Il y a deux grandes familles. Il y en a une qui consiste à essayer de réduire la quantité d'énergie qui vient du soleil.
Arrêter les rayons du soleil, en gros.
Oui, donc je schématise, c'est des miroirs qui sont installés pour refléter l'énergie qui vient du soleil vers l'espace. La deuxième grande famille est de fertiliser les océans, donc d'essayer d'augmenter les productions de plancton qui capturerait une partie du gaz carbonique présent dans l'atmosphère. C'est vrai que dans ce cinquième rapport, il y a un chapitre sur la géo-engineering et on peut l'interpréter de plusieurs manières. Au jour d'aujourd'hui, il y a un moratoire sur toutes les expériences de géo-engineering depuis 2010 à l'échelle internationale. Moratoire pour ne pas justement mettre en place ces techniques qui pourraient modifier le climat. Alors on entendait beaucoup de choses sur la géo-engineering avant ce cinquième rapport parce qu'en fait, la communauté scientifique ne s'était jamais vraiment saisie à une échelle internationale de ces questions. Donc dans ce cinquième rapport, la communauté scientifique s'est saisie pour essayer donc d'évaluer l'impact climatique de ces techniques de géo-engineering. Donc maintenant, il y a un consensus, par exemple, sur des conclusions qui sont très fortes, sur le fait que les connaissances aujourd'hui sur les effets de géo-engineering qui arriveraient pour sûr à diminuer la température globale de la planète, les conséquences sur le reste du système climatique pourraient être très importantes et pourrait avoir des effets durables.
Et non maîtrisables.
Et non maîtrisables dans la mesure où le rapport souligne bien, il y a une phrase très claire, donc c'est le dernier chapitre, le dernier petit paragraphe, qui dit que si l'on arrêtait les techniques de géo-engineering, dans ce cas, la température de la planète remonterait très rapidement au niveau où elle devrait être. Donc ça implique aussi le fait, c'est clairement écrit dans le rapport, que ces techniques sont des techniques qui doivent être mises en place sur des échelles de temps qui sont extrêmement longues, au-delà du siècle. Et donc la vision sur ce que sera la société et la technologie au-delà du siècle, elle est quand même assez limitée. Donc si on relit le rapport, en fait, le phrasé est très clair sur le fait que ça serait aujourd'hui jouer avec la géoengineering, jouer un petit peu avec le feu, dans la mesure où le cycle hydrologique serait fortement modifié, le niveau de la mer n'arrêterait pas de monter.
Donc c'est plutôt une sorte d'avertissement lancé aux décideurs, ces mêmes décideurs dont on sait qu'ils ont un peu baissé les bras. On se souvient du fiasco total du sommet de Copenhague. On peut aussi souligner le silence absolument fracassant sur les questions climatiques depuis ces 5 dernières années, et en particulier autour de l'extraction des gaz de schiste, en particulier autour de la continuation d'une politique pétrolière agressive qui vise à aller chercher jusqu'aux dernières gouttes. Donc il s'agirait pour le GIEC d'avertir des gouvernements dont on peut imaginer qu'ils seront très prompts à vouloir se saisir de ce type de solution, entre guillemets, très technologique et très chatoyante, plutôt que de mettre en place des politiques d'austérité coûteuses, douloureuses, mal acceptées.
Donc, il s'agit pour le GIEC de vraiment donner les bases scientifiques, la meilleure connaissance scientifique aujourd'hui, la plus précise, sur les conséquences du géoengineering. Parce que souvent, quand on parle de géoengineering, on parle de température globale de la planète. On oublie que le système climatique ne se limite pas à ça et que, en particulier, le cycle de l'eau est très important. Et limiter de manière artificielle la hausse de la température globale de la planète conduit à perturber ce cycle de l'eau. Et en fait, le problème de l'eau et le problème de la température sont extrêmement liés. Mais on rajouterait, vu les connaissances actuelles, tel que dit le rapport, on rajouterait un stress supplémentaire ou une modification supplémentaire sur ce cycle de l'eau qui change déjà de par l'augmentation des gaz à effet de serre.
Reste, Christophe Cassou, que là je vous demandais peut-être un commentaire, on va dire, un peu plus politique, même si de fait j'apprécie les précisions scientifiques que vous nous proposez, une appréciation un peu plus politique sur ce système dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans lequel les politiques refuse ou en tout cas temporise avant de s'engager. Vous le disiez dans votre conférence, le moment pour réagir est très bref, de plus en plus bref. Il reste quoi, quelques années?
Alors on estime avec les nouveaux scénarios qu'il reste environ 10-15 ans, 15 ans vraiment maximum, pour préparer l'avenir et pour essayer donc de mettre en place toutes les politiques d'émissions de gaz à effet de serre.
Et il ne s'agit pas de petites actions à la marge?
Il ne s'agit pas du tout de petites actions, il s'agit vraiment d'actions fortes qui conduisent à revoir un mode de fonctionnement d'une société. Ça ne se limite pas à quelques mesures cosmétiques de réduction. Alors, bien sûr, il faut les faire, ces mesures cosmétiques ou ces petites mesures, car en fait, ce qui compte, j'ai essayé d'inciter pendant ma conférence, ce qui compte, c'est l'effet cumulé des émissions de gaz à effet de serre pour le climat de demain. Donc ce qui compte pour le climat de la fin du siècle, c'est non seulement les émissions que l'on émet évidemment à la fin du siècle, qu'on émet au moment présent, où l'on considère la température, mais également les émissions passées, c'est-à-dire les émissions qui se sont accumulées depuis le début de l'ère industrielle jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est renforcé dans ce cinquième rapport et dans le résumé aux décideurs, où c'est le carbone cumulé qui importe. Et donc, implicitement, ça veut dire que dès aujourd'hui, on doit prendre toutes les mesures pour essayer de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Christophe Cassou, il y a aussi un autre élément qui a pris de l'importance ou de l'ampleur ces dernières années, c'est les climato-sceptiques. Et le fait que le GIEC est maintenant attaqué frontalement, accusé de vouloir préserver une cagnotte ou enfin des fonds tout à fait conséquents qui seraient attribués aux chercheurs dont vous faites partie.
Oui, alors la communauté des climatologues est très souvent attaquée par ce qu'on appelle les climato-sceptiques, qui utilisent des techniques bien reconnues qui ont été adoptées par certains lobbies, comme les lobbies du tabac aux États-Unis, les lobbies du pétrole, qui consistent à mettre le doute dans les conclusions. Et donc, si l'on doute, en fait, ça diminue la force des conclusions de manière assez radicale. Et il y a aussi une confusion ou une méconnaissance, en fait, du fonctionnement du GIEC, dans la mesure où le GIEC ne fait pas de science. Le GIEC produit un instantané des connaissances scientifiques sur le climat. Donc il fait en fait une revue bibliographique des connaissances scientifiques sur le climat, mais ne dit rien, ne prescrit rien. Il développe l'état des connaissances, la meilleure état des connaissances sur l'évolution climatique. Donc le GIEC ne fait pas non plus de catastrophisme. Le GIEC ne dit pas il faut contenir le changement climatique à 2 degrés. Le GIEC dit uniquement c'est que pour contenir le changement climatique à 2 degrés, il faudrait émettre tant de gaz à effet de serre.
Et pas plus.
Et pas plus.
Alors Christophe Cassou, le fait que vous soyez présent dans ce village des alternatives à Bayonne laisse à imaginer que vous pensez que la solution ne viendra pas seulement de ces décideurs si frileux, ni de ces lobbyistes si anxieux de semer le doute. Donc, comment est-ce qu'on peut agir autrement ?
Alors, si je suis ici à Bayonne dans le cadre de ces journées, je le suis avec quand même la casquette du scientifique qui a un devoir de diffusion des connaissances. Je reste persuadé que c'est par l'éducation et par la connaissance que commence l'action. Et donc si le citoyen sait, connaît les bases scientifiques qui fondent les conclusions du GIEC, dans ce cas, il sera un peu plus armé pour répondre aux doutes qui peuvent s'immiscer dans ces conclusions par les climato-sceptiques. Si je suis ici aussi, donc là c'est peut-être une casquette un peu du citoyen, c'est que je pense que la sortie de l'impasse se reposerait sur en fait le travail en commun à tous les niveaux, c'est-à-dire des échelles locales aux échelles globales, de la sphère des décideurs aux citoyens. Il s'agit de trouver une manière de mettre ensemble toutes ces personnes, toutes ces entités-là, parce que la solution est globale. Et je pense qu'on ne devrait pas opposer les initiatives locales par rapport à d'éventuelles mesures qui viendraient par le haut. Je pense qu'il faut travailler ensemble. Les mesures qui viendraient par le haut ne peuvent être acceptées que par un tissu social. Et le haut, les décideurs sont, je pense, s'intéressent aux initiatives locales pour peut-être les transférer à un niveau global. Donc je pense qu'il y a un dialogue entre les deux qu'il faut établir.
Approchez, approchez, mesdames et messieurs, elle est fraîche, elle est joyeuse, la transition. Venez la découvrir, approchez, approchez.
Elle est où, votre transition ?
Alors elle est partout dans le monde. Mais plus spécifiquement pour ce qui nous concerne, 150 initiatives en France et dans le département d'où je viens, la Gironde, 7 initiatives. Et cette initiative sur, on ne sait pas trop pourquoi, plutôt sur la deuxième couronne de Bordeaux et sur les petites villes rurales, où il y a eu depuis 2 ans mise en place de 2 AMAP, d'un système d'échange local, d'un guide des alternatives, d'une monnaie locale qui s'appelle la Miel. Plusieurs fêtes aussi, 2 fêtes de la transition, une fête du don et du partage, et puis plein de choses que je dois oublier.
Comment est-ce que vous rattachez toutes ces initiatives au changement climatique ? Parce que ce sont des choses qui existent.
C'est une très bonne question. Au départ, la transition, c'est un concept qui est né en Grande-Bretagne de formateurs en permaculture. Donc la permaculture étant une forme d'agroécologie, mais allant un peu plus loin, c'est une philosophie où on cherche finalement à peser le moins possible sur la planète. Et donc le constat de départ, c'est crise climatique plus crise énergétique, ben on va vers l'effondrement de notre société. Alors derrière ce constat apocalyptique, ben on essaie de réagir de façon positive, c'est-à-dire effectivement ben de se dire c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde et un nouveau monde à inventer. Et donc ça, c'est un magnifique défi. Concrètement, quelles vont être les conséquences du renchérissement de l'énergie ? Ben, si on creuse un petit peu, ben, on se rend compte que la réponse, c'est la relocalisation. Et notamment la relocalisation de l'alimentation, de la production d'énergie renouvelable. Et c'est la base, effectivement, du développement des groupes de transition et une façon, effectivement, de répondre à la crise climatique, c'est-à-dire développer la résilience des territoires, leur capacité à absorber des chocs et à les dépasser. Donc c'est aussi une forme d'adaptation.
D'accord, mais tout de même, la majorité des expériences, des initiatives que vous avez évoquées se sont mises à exister bien avant l'arrivée du mouvement de la transition en France. Les AMAP, les circuits courts. Donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce que la transition apporte ? Est-ce que c'est un regard plus lucide ou plus ciblé, je dirais, sur ces questions énergétiques et de changement climatique ? Est-ce que c'est une façon de fédérer les initiatives ?
C'est ça. C'est-à-dire que je crois que la transition, quelque part, c'est avant tout un catalyseur. Ça veut dire qu'on organise une démarche extrêmement participative, où par exemple, on va organiser des forums ouverts, où il va y avoir 50 ou 100 personnes d'un même territoire qui vont être présents, et on utilise des techniques d'animation qui vont permettre de donner une place à chacun, et de se rendre compte qu'il y en a 10 qui sont préoccupés par les questions d'alimentation et qui vont se mettre ensemble pour développer un projet d'AMAP ou autre chose, 5 qui vont s'intéresser aux enjeux des énergies renouvelables et qui vont travailler sur un projet. Ça, c'est catalyseur au niveau des individus. Mais ça a aussi la volonté d'être catalyseur au niveau, justement, des initiatives, des associations. Aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on est confronté à une espèce de raz-de-marée du libéralisme qui est en train de tout balayer. Donc finalement, notre enjeu, les quelques fêtus de paille, les quelques mouvements, associations qui essayons de résister à ça, c'est bien quelque part de converger de manière à pouvoir produire finalement un contre-raz-de-marée qui va inverser le processus et éviter donc cet effondrement. Et donc la transition, c'est pas la réponse magique qui va être capable de fédérer, mais en tout cas, c'est un des éléments qui vise effectivement à travailler à cette convergence sur un territoire, que ces initiatives multiples qui sont souvent isolées puissent effectivement travailler ensemble plus qu'elles le font actuellement.
Vous dites qu'ils visent parce que pour l'instant ça reste un vœu ou vous sentez déjà qu'il y a une sorte de maillage, je dirais, au sein d'un réseau ?
Alors là aussi, il y a des choses très différentes selon les territoires, puisqu'effectivement la transition c'est un mouvement qui est très très horizontal. Oui, on n'a pas réellement de tête de réseau national. Donc c'est sur chaque territoire un groupe de personnes qui s'emparent de cette idée de transition et qui la développent avec des façons extrêmement différentes. Certains vont être effectivement plus sur des réalisations d'actions manquantes sur le territoire. D'autres vont être plus effectivement sur un travail sur la convergence entre mouvements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les premiers résultats, c'est plutôt dans la création d'actions manquantes que dans la convergence, parce que on connaît ces associations, souvent qui font un travail magnifique, mais où il y a souvent des fortes personnalités, où il y a historiquement des conflits entre les personnes, etc. Et on voit bien la difficulté à rentrer dans le coopératif. Et c'est un de nos enjeux, c'est comment on invente des nouveaux modes de fonctionnement, de démocratie, qui soient effectivement respectueux de chacun et qui permettent d'aller vers cette convergence. Donc il y a des choses qui avancent, mais on est encore qu'au tout début, malheureusement.
Est-ce que vous avez l'impression de faire un mouvement de transition version basque en réunissant toutes ces alternatives ? D'ailleurs, il y en a combien ?
Ici, je crois qu'il y a plus de 150 alternatives différentes représentées à travers toutes les rues et les 15 espaces thématiques. Mais le basque, c'est cet endroit ici où le monde prend ce nom. Nous, on est une partie de ce monde et nous, on essaye de contribuer à sa diversité culturelle. On veut l'enrichir de notre petit apport comme nous, on aime que les autres nous enrichissent de leur apport.
Alors c'est amusant parce que vous reprenez basque qui pour moi était juste l'adjectif. Pour moi, ce qui était la question, c'était la transition, le mouvement des villes en transition.
Avec nous, la transition, je sais pas, on est pratiquant. On n'emploie pas tellement ce mot pour définir notre action, mais je pense que tout ce qu'on fait par rapport justement aux pistes cyclables, au diagnostic citoyen vélo, à la monnaie locale, à tous les circuits de distribution courte qui se montent ici, etc., c'est de la transition. C'est-à-dire, c'est dans la société aujourd'hui, avec ses carcans d'aujourd'hui, la préparation des embryons de la société de demain qui sont en train de se construire, pas symboliquement, mais réellement. Ici, par exemple, la monnaie locale, c'est 2400 utilisateurs adhérents dans un petit territoire de 300 000 habitants. C'est 500 commerces, petites entreprises, etc., qui acceptent cette monnaie locale. Et ça a déjà des effets sur l'économie d'ici.
1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10.
Merci beaucoup. Bonne continuation.
Merci. Adieu.
Je peux échanger des euros ici ?
Oui, bien sûr, à condition d'adhérer ou d'être adhérente de l'association Eshkol Moneta, puisque c'est une obligation légale pour utiliser une monnaie locale complémentaire en France, d'être adhérent de l'association ou en tout cas d'une structure qui porte ce projet.
Et qu'est-ce qui se passe après, si je suis adhérente ?
Quand vous êtes adhérente, ensuite, vous venez ici avec votre carte d'adhérent, vous dites combien d'euros vous voulez changer en Eshkol et on vous fait le change ici même. On remplit une ligne de registre avec le montant que vous avez changé, votre nom, et vous signez le registre et on vous donne vos Eshkol.
Vous êtes une vraie banque alors, malgré les apparences.
Non, on n'est pas du tout une banque. Nous, on ne peut pas placer cet argent sur des marchés ou je ne sais quoi, ou prêter cet argent. Les euros qui sont changés en Eshkol doivent être bloqués sur un compte en banque, justement. Ça aussi, c'est une obligation légale, sinon on crée de l'argent. Et comme beaucoup de monnaies locales, on le place sur un livret d'épargne sociale et solidaire à la Nef. Donc ensuite, cet argent peut être utilisé par la Nef pour financer des projets dans l'économie sociale et solidaire, mais nous, on n'a pas le droit d'y toucher.
Et moi, en attendant, je suis partie avec mes OSCO. 10 euros, ça fait combien de OSCO?
10 OSCO. C'est 1 euro, 1 OSCO.
Et qu'est-ce que je fais avec ça?
Mais ensuite, vous les dépensez auprès de toutes les associations ou commerces qui sont adhérents de Schkoll Moneta, donc de l'OSCO. Aujourd'hui, il y a environ 450 entreprises et associations qui sont adhérentes. Et par exemple, l'organisateur d'Alternativa est adhérent aussi. Donc aujourd'hui, sur tout le site d'Alternativa, au marché des producteurs qui sont aussi tous adhérents de l'OSCO, vous pouvez utiliser ces OSCO, ainsi que dans plusieurs commerces de Bayonne qui sont membres du réseau.
Il y en a beaucoup qui ont circulé aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y a 170 000 OSCO en circulation.
Pas mal, non?
Oui, c'est bien. C'est même très bien. On a eu un démarrage très fort. Hein. Et maintenant, l'enjeu, ça va être de pérenniser ce joli démarrage de ça.
Cette monnaie, elle est uniquement sur Bayonne ou plus large?
Non, elle est sur tout le Pays Basque Nord, tout le Pays Basque français. Donc, Bayonne est très dynamique, mais ce n'est pas du tout le seul territoire. On a vraiment des prestataires et des adhérents sur tout le Pays Basque.
Et quel lien est-ce que vous faites avec le changement climatique?
En fait, le SCO, c'est un outil de changement de pratique, disons. Donc, c'est au départ surtout un outil de relocalisation de l'économie, puisque c'est un pouvoir d'achat captif sur un territoire. Donc, un commerçant qui a été payé en OSCO doit forcément les dépenser auprès de l'autre commerçant ou d'une entreprise du territoire. Et donc, ça conduit, disons, à resserrer les liens entre les différentes entreprises et à faire que peut-être quelqu'un qui achetait un service ou un produit en dehors du Pays Basque, éventuellement très loin, va chercher un producteur local. Ça peut avoir un impact pour diminuer, par exemple, les transports nécessaires pour faire tourner l'économie, disons.
La condition de ça, c'est que vous ayez des acteurs économiques investis dans des activités nécessaires, je dirais, qui s'impliquent aussi dans cette monnaie. C'est-à-dire, si on peut dépenser cette monnaie uniquement dans les bistrots et chez les marchands de sandwich, c'est pas exactement de la relocalisation de l'économie.
Oui, oui. Alors, effectivement, il faut que le réseau soit le plus riche possible, disons, en services et en produits qui sont possibles d'être achetés en OSCO. Alors aujourd'hui, même si pendant Alternativa, on a peut-être l'impression que c'est uniquement la buvette, mais on a déjà pas mal d'entreprises et de commerces assez variés, donc y compris des services ou des... Alors je sais pas moi, vous pouvez... vous avez des médecins, un dentiste, des pharmacies, ensuite tout ce qui est commerce de proximité comme boulangerie, épicerie, ce genre de choses.
Vous ne citez pas les AMAP, les circuits courts, les réparateurs de vélos
Alors si, il y a aussi...
Ils sont tous présents ici pourtant.
Oui, alors il y a une association qui s'appelle Chirindola ici à Bayonne qui est justement un atelier vélo participatif qui est adhérent de l'OSCO. Ensuite, l'Interamap Pays Basque en tant que structure est aussi adhérent de l'OSCO. Alors pour les AMAP, c'est un petit peu particulier parce que l'AMAP, en fait, ce sont des contrats directement entre producteurs et consommateurs. C'est-à-dire que l'AMAP organise ça, mais même si l'AMAP adhérait, elle a finalement très peu d'entrée d'argent. Par contre, il y a beaucoup de paysans maintenant qui sont adhérents. Et donc, certains qui sont à l'AMAP acceptent sur une partie de leurs produits d'être payés en OSCO.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que l'OSCO serve à créer de nouvelles activités économiques? Je pense par exemple à un réseau de transports en commun alternatif ou des choses, c'est-à-dire d'une envergure assez importante.
On peut l'imaginer, bien sûr. Et on a un partenariat ici avec une entreprise de capital investissement qui s'appelle Ericoa, qui existe depuis 30 ans au Pays Basque. Et qui est là pour mobiliser l'épargne locale au service de l'économie locale. Et en fait, Ericoa, sur ses fonds, réserve un fonds qui s'appelle le fonds OSCO Ericoa, qui a le même montant que la quantité d'OSCO en circulation. Le principe, c'est que on a lancé un appel à projet en disant que ce fonds est disponible pour financer des activités économiques qui veulent se développer ou démarrer. Et en fait, en gros, Schkoll Moneta, donc la structure qui porte l'OSCO, valide l'aspect éthique ou valeur, disons, du projet. Et ensuite, on passe le dossier à Ericoa qui fait son travail habituel d'analyse financière, économique du projet, comme toute société qui investit dans une entreprise, pour valider si ça tient la route économiquement. Mais il y a comme ça une sélection en deux temps. Et donc là, nous, on espère par ce biais-là favoriser des projets notamment structurants pour l'activité économique et par exemple des filières qui n'existeraient pas aujourd'hui ou des activités qui n'existeraient pas aujourd'hui. Alors, c'est encore trop tôt pour dire ce qui va en ressortir, mais ce levier-là existe grâce au partenariat avec Ericoin. Ouais.
Et donc, le lien avec le changement climatique, c'est simplement relocalisation de l'économie ou c'est aussi une transformation de l'économie ?
Pour moi, le SCO, c'est vraiment un outil de changement de pratique. Alors, le levier le plus fort, c'est la relocalisation de l'économie. Ensuite, il y a un système de défis qu'on a mis en place, puisqu'on demande aux entreprises qui adhèrent de prendre des engagements, alors actuellement par rapport à l'économie locale et par rapport à l'usage de la langue basque. Et ensuite, donc ça c'est pour les deux premières années. Ensuite, il y a aussi le tri des déchets, pardon. Et ensuite, après ces deux ans, on va enrichir ce qu'on appelle le cahier des défis. Et donc on va demander aux entreprises de prendre des engagements plus exigeants, disons. Mais on est dans une démarche de partir doucement et de tirer vers le haut, en fait. Donc on est sur une démarche de long terme. C'est un projet... J'avais dit à l'Assemblée Générale de lancement qu'on partait au moins pour 10 ans et que c'était dans cette optique-là qu'il fallait envisager le projet. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se laisser le temps aussi de voir si ça marche, quel est l'impact. Et bon, voilà.
417. Tu veux changer combien ?
20.
Espèce, 20 euros. Manuel.
T'as fait ça toute la matinée là ?
Ouais, toute la matinée, ça n'a pas arrêté. Hein.
Magnifique.
Je crois qu'on a failli tomber en rupture. Attends, 20 euros. Tu veux quoi, des petites coupures ?
Ouais, donc des petites coupures, ouais, du 5, un billet de 10, ouais, et après 2.
Alors, ouais. C'est parti, donc 10, 15, 17, 18, 19, 20. Adosh,
Yeshker,
une petite signature avec la date.
Hervé Kempf, vous avez un stand, vous aussi, à cette journée Alternativa sur les médias alternatifs. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bah, non seulement reporter un stand, mais on est partenaire d'Alternativa depuis le début, parce qu'on sait que BC est une des associations en France qui fait un boulot formidable, qui allie très bien les batailles locales, qui sont très bien pensées et qui sont menées avec beaucoup d'humour souvent, et en même temps dans une vision globale, voilà, qui sur lequel on est en parfait accord. Donc on
tout le bien que vous pensez de BC, mais Reporter, qu'est-ce que Reporter, qui est donc un média que vous avez créé sur le net, qu'est-ce que Reporter vient faire dans une journée consacrée aux alternatives et au changement climatique ?
Reporter et accompagne Alternativa et fait partie de ce moment d'alternative, parce que nous pensons qu'il y a aussi une alternative en termes de médias qui est aussi vitale que ce qui se passe en matière d'énergie, en matière d'alimentation, en matière de coopérative, en matière de voilà, de tous ces domaines où il y a une société qui invente quelque chose. Ben pour quelle raison ? Parce que les médias, ce qu'on appelle les grands médias, les médias officiels, les médias dominants, les grands médias sont aux mains du capitalisme, du capital. Et quand je dis capitalisme ou des capitalistes, c'est pas un gros mot horrible. Ça veut simplement dire les gens qui disposent de beaucoup de capitaux. Et c'est le cas de, je vais même pas citer le nom, c'est quasiment tous les grands médias appartiennent directement ou indirectement sous son contrôle de ces capitalistes, et il n'est plus possible de faire une information véritablement libre sur ces lieux. Donc on crée des médias alternatifs, et Reporter, qui est le quotidien de l'écologie sur Internet, en est un, mais un parmi d'autres. Et voilà, et c'est très important de faire sentir qu'il est nécessaire pour accompagner ce mouvement, pour en rendre compte, pour montrer les gamberges, les réflexions, les questions, les luttes nouvelles et aussi les alternatives, d'avoir des médias propres. Et pourquoi, d'une certaine manière ? Parce qu'on est dans une société où la majorité de nos concitoyens qui regardent, et on ne peut pas leur reprocher, la télé le soir quand ils sont fatigués, qui lisent les journaux, etc., ont le message de ces médias. Et ces médias ne veulent pas montrer les alternatives. Donc toutes les alternatives se sentent un petit peu isolées, se sentent parcellisées dans son coin. On se bagarre, mais on a l'impression d'être tout seul. Alors qu'en fait, ils ne sont pas si seuls que ça. Mais les grands médias ne montrent pas ça. Et si on arrive à mettre ensemble, par des événements comme Alternativa, mais aussi par un travail d'information sur des médias, mettre ensemble toutes ces alternatives, les gens verront que par eux-mêmes, cette autre société est possible.
Ces grands médias ne montrent pas non plus les dégâts causés par le système économique actuel, dégâts sur l'environnement, dégâts sur les systèmes sociaux. Ça, c'est effectivement ce qu'on trouve dans les médias alternatifs. Alors, ces médias alternatifs ont pour particularité d'être, pour la plupart d'entre eux, sur Internet. J'imagine que la cause une des causes, en tout cas, c'est une cause économique, justement. Comment est-ce qu'on peut imaginer un modèle viable pour des médias qui donneraient une autre image de ce qui se passe?
C'est certain que c'est pour une cause économique, c'est-à-dire que monter un site internet est beaucoup moins coûteux que d'imprimer, par exemple, un magazine sur papier. Pour une raison simple, c'est que imprimer sur papier, ça coûte très cher si on fait un grand tirage, alors que sur internet, bah, on peut le faire à un coût extrêmement modéré en termes techniques. Après, moi, je peux parler que de celui que je connais le mieux, qui est reporter. Il peut y avoir, par exemple, comme dans le cas de Mediapart et de Arrêt sur Image, une sorte d'abonnement. Et Mediapart, comme Arrêt sur Image, disent très clairement à ceux qui les consultent, bah, écoutez, pour que cette information que vous aimez bien, qui vous est utile, continue à vivre, vous prenez un abonnement ou un droit d'entrée, etc. Et voilà, c'est une formule. Moi, j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour Arrêt sur Image et Mediapart, et c'est bien ce qu'ils font. Il y a un autre modèle possible. Enfin, je ne sais pas si c'est un modèle, d'ailleurs, mais il y a une autre voie possible que nous, on veut prendre en tant que quotidien de l'écologie pour l'instant. Et afin que l'écologie, ça ne soit pas seulement l'affaire des écologistes, mais qu'on puisse toucher tout le monde. Et on se dit, s'il y a une barrière d'entrée, bah, il faut que je contribue, ce qui est normal, à 10, 15 euros, 20 euros par mois. Il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés par nos nouvelles sur l'énergie, sur les animaux, sur ce qui se passe au Bangladesh, sur une autre façon de travailler ici, qui pourraient ne pas accéder à cette information. Et comme on veut l'ouvrir, l'écologie, quand même, en montrant que c'est une préoccupation générale, on veut rester gratuit. Après, la manière économique de le faire, pour l'instant, on a trois sources. Hein. On fait des conférences, par exemple, qu'on fait payer pour l'association La Pile, qui soutient Reporter. On demande aussi aux gens d'envoyer de l'argent, soit par PayPal, soit par chèque, que ce soit 5 euros ou 1000 euros. 1000 euros, c'est pas encore arrivé, mais il y a eu un 500 euros. Mais 5 euros, c'est tout aussi utile. Et puis bon, allez-y. Voilà, c'est une autre source importante. Et une troisième source, c'est une fondation alternative et, j'imagine, dans l'avenir, des partenaires. Donc, ça sera ces trois piliers. Ceci dit, l'axe de base, et moi, je le dis très clairement, pour faire une bonne information sur Internet ou ailleurs, bah, il faut des journalistes. C'est un savoir-faire, c'est une technique. C'est de la même manière que pour être un bon boulanger, bah, il faut connaître la boulangerie, ça s'invente pas. Bah, pour faire des bons papiers, il faut aussi un travailleur qui s'appelle le journaliste et qui a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il faut le payer, il faut payer le travail. Donc si, dans quelques mois ou un an, on n'a pas suffisamment de recettes des gens qui nous suivent, des internautes, bah, on ne pourra pas continuer. Donc c'est le pari que je fais, que je crois de plus en plus de médias vont faire. Et en même temps, on va chercher à créer des coopératives de médias, à travailler ensemble. De quelle manière on va en discuter? Moi, je ne veux pas engager qui que ce soit, mais c'est clair que...
Vous avez déjà une idée,
oui,
coopérative.
On va faire des partenariats, parce que ce qu'il y a de passionnant avec Internet par rapport à des médias, par exemple, par écrit, qui sont en concurrence les uns avec les autres, alors qu'Internet, on peut trouver des complémentarités. Par exemple, Reporter, il nous est arrivé de faire des choses en commun avec Rue 89, parce qu'eux, ils sont généralistes, nous, on est sur l'écologie, et à un moment donné, on pouvait faire des choses en commun, ça ne nuisait ni à l'un ni à l'autre, et au contraire, ça nous renforçait les uns et les autres. Ça, je pense qu'on va pouvoir le généraliser. On a commencé un partenariat avec le mensuel Silence, par exemple. J'espère qu'on va y arriver. On va discuter avec Basta, on va discuter avec Fakir, on va discuter avec l'Humanité. Pourquoi pas, on discuterait avec Ruth Stegassi et France Culture. Et trouver, on va faire un partenariat avec Radio Alix, c'est une beaucoup plus petite radio que France Culture. Mais voilà, on peut trouver des points. Et c'est à l'image de ce mouvement alternatif qui peut se faire. Et c'est ce qu'on veut montrer ici à Bayonne et Alternatiba. Si on est chacun dans notre coin à faire l'agriculture biologique, le panneau solaire, la coopérative, la bagarre contre l'autoroute. C'est bien, il faut le faire, c'est indispensable. Mais ça suffit pas. Le vrai truc, c'est quand on fera la masse critique. Et moi, je veux qu'on arrive, parce que Reporter, ça va être très gentil, mais on va rester un petit pion pendant longtemps. En revanche, si on s'entend avec tous ces médias que j'ai cités et d'autres, eh ben, on fait une masse critique. Et après, cette masse critique de tous ces gens ensemble, croyez-moi, si on arrive à bien s'accorder, on est beaucoup plus... Pas plus fort, je veux pas être plus fort ou plus puissant, mais on pèsera autant que les médias qui appartiennent aux capitalistes dont je parlais tout à l'heure.
Je trouve ça intéressant et en même temps intriguant. J'imagine une forme de mutualisation effectivement des informations et des sources qui peut être quelque chose de tout à fait intéressant et qui va effectivement dans le sens de ce qui se passe aujourd'hui dans tous ces mouvements qui se mobilisent et qui sont en train de se fédérer. En même temps, la même information répercutée d'un journal à l'autre, ce que vous décrivez, d'une certaine façon, ça ressemble à une espèce de super agence de presse.
Non, moi je dirais une coopérative. Et de la même manière, il y a cette phrase tiens, qu'on a redite ce matin, il paraît qu'elle est de Gandhi, « Sois toi-même le changement que tu veux être ». Bah, si on veut faire une autre information, par exemple les alternatives, c'est la coopérative. Le post-capitalisme, c'est la coopérative, la coopération contre le modèle de la compétition capitaliste. Donc il faut qu'on soit nous-mêmes en coopérative. Mais une coopérative, on se répartit la tâche. Tout le monde ne va pas faire le même boulot. Si on fait un accord avec silence sur un papier, une fenêtre, respectivement chez eux et chez nous, mais ça ne les empêche pas d'être totalement silence, d'avoir leur personnalité qui est superbe. Et nous, on aura notre personnalité qui sera différente et qui est le quotidien. Si on fait la même chose avec, je cite Rue 89, mais ou d'autres que j'ai cités tout à l'heure, Mediapart, ils trouveront, ils garderont évidemment leur personnalité. On est complémentaires. Par exemple, nous, on veut être le quotidien de l'écologie, avec des gens qui ont une approche plus de magazine, qui font des enquêtes plus fouillées, plus longues. Là, il y a des points de contact évidents. On va prendre un autre exemple, une discussion qu'on avait avec des journalistes hier, dans un quotidien et dans un site internet. Et tiens, il y a beaucoup d'événements qui ont une forme de feuilleton dans l'actualité. Je sais pas quoi. Bon, la ferme des 1000 vaches, par exemple. Bon, nous, on a été un des premiers, je crois, sur le coup, en suivant la Confédération paysanne. Mais nos moyens sont très faibles, donc on peut pas suivre à chaque étape. Mais imagine que dans 3 semaines, la journaliste du quotidien en question, elle va faire un papier sur les 1000 vaches. Et avec l'accord de son quotidien, on dit, c'est bien, ton papier, votre papier, on le reprend. Et on se fait une sorte de publicité mutuelle. Et voilà. Et le coup suivant, ça va être tel autre journaliste d'un site. Et puis le jour où vraiment la ferme des 1000 vaches, là, ça sera tellement important, on ira tous avec notre ton différent. Mais tu vois, le travail coopératif, il peut s'imaginer, voilà, on peut être beaucoup joué dans les complémentarités plutôt que dans le modèle de la concurrence.
La bonne nouvelle, Hervé Kempf, c'est que Reporter explose.
Non, il explose pas, mais il a progressé beaucoup. Non, on est très modeste et voilà, c'est vrai qu'en septembre, on a commencé à travailler vraiment à grande échelle. Donc, enfin, grande échelle, on est quand même des... mais oui, on a dépassé 280 000 visites, on va avoir un tassement, je pense qu'on va être à 200 000 visites de ce mois, mais comme on va de plus en plus s'améliorer, on a des journalistes qui acceptent de travailler avec nous, enfin, qui aiment bien travailler avec nous, et nous, on les paye très modestement, mais c'est un travail, donc on veut... professionnel, on veut que les gens soient payés pour l'information qu'ils font. On va pouvoir embaucher un jeune journaliste. Moi, je suis à Pôle emploi, donc puisque personne ne m'a encore proposé de travail, je continue avec Reporter. On va s'améliorer. Et donc, je pense que, on va progresser. Moi, je veux pas exploser. Je veux, en revanche, progresser et convaincre de plus en plus de gens que l'écologie, c'est important. C'est à la fois important comme bataille. C'est important pour la liberté, c'est important parce que cet autre monde, il est totalement possible. On peut sortir du capitalisme, on peut faire autrement, on peut créer de l'emploi, on peut sortir de la tristesse qui imprègne notre société. Et donc, on veut être un instrument comme ça. Et comme je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le comprennent, on va progresser avec d'autres.
Des espaces de jeux pour enfants, des AMAP, de la finance solidaire, des lieux où on parle d'économie d'énergie ou d'éco-construction. Quel lien entre toutes ces alternatives, Tchetch ?
Les deux points communs, c'est qu'elles permettent de diminuer notre empreinte écologique, notre consommation d'énergie et donc notre rejet de gaz à effet de serre qui est responsable du réchauffement climatique en cours, le dérèglement climatique on devrait dire, puisqu'on est en train en fait de dérégler le mécanisme du climat et ça va avoir des conséquences à tous les niveaux. C'est pas uniquement qu'il fera plus chaud, c'est à monter des océans, ça sera des centaines de millions de réfugiés climatiques, ça sera des villes entières à reconstruire, ça sera une multiplication toujours plus accentuée des événements climatiques extrêmes comme les inondations, les typhons, les ouragans, les canicules, etc. Et donc, ça permet de lutter contre les causes de ce dérèglement climatique. Et puis, ça permet d'aider les plus démunis, parce que quand on diminue la consommation d'énergie, forcément, on protège les secteurs les plus pauvres de la population qui, autrement, vont se prendre l'explosion du prix de l'énergie dans les 10 années à venir en plein visage. Et eux, ils n'auront pas les moyens de s'adapter, contrairement aux plus favorisés de la société. Et donc, si on ne développe pas, par exemple, des transports collectifs aujourd'hui, demain, ceux qui habitent à 60 km ou à 50 km de leur travail, ils vont se ruiner en déplacement, ils vont se ruiner en consommation de chauffage si on n'isole pas les habitats. Donc, deuxième point commun, ça protège les plus démunis. Et troisième point commun pour moi, toutes ces alternatives-là, elles créent c'est plus de liens et moins de biens, c'est plus de solidarité, plus de convivialité, moins d'individualisme. On le voit avec l'agriculture paysanne qui peuple les campagnes au lieu de paysages uniformes et puis un paysan qui va pouvoir produire ce que produisent 50 paysans d'aujourd'hui. Et bien, c'est des paysans plus nombreux et donc des villages plus vivants et des campagnes qui ont un paysage et une manière de vivre complètement différente. Et ça, à tous les niveaux, on va le retrouver forcément le transport collectif ou les transports doux par rapport aux tout voitures et une voiture pour deux habitants, ça crée des sociétés différentes, des villes différentes. Et à tous les niveaux, il y a ça, quoi. Et donc, la consommation responsable, les AMAP dont vous parliez, etc., c'est quelque chose qui crée du lien social, de la solidarité, des réseaux, des gens qui se connaissent, qui développent autre chose. Et on le voit bien aujourd'hui, comment les gens sont heureux et il se passe quelque chose. Et c'est vraiment, on combat la tristesse de cette société qui nous isole devant nos télés, devant notre PlayStation, etc. Il y a autre chose, les gens ils ont besoin d'autre chose et ça se sent. Et ici, ils le trouvent.
Merci, merci Patrick, merci Geneviève, merci Christophe, merci à vous tous, merci à nous tous, on a été très bien, ça va continuer, merci Hervé, allez. Les caisses de soutien circulent, n'oubliez pas de les remplir avec ce qui vous reste après qu'on a vidé les paradis fiscaux. Je n'oublie rien, merci, bonne journée.
Voilà, cette émission est terminée. Vous pourrez la télécharger, la réécouter sur notre site et vous pourrez même y voir quelques photos de l'événement. Vous y retrouverez bien sûr aussi notre revue de web hebdomadaire. Notre site, c'est franceculture.fr. Notre numéro de téléphone, le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage Jean-Richard Dufour, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.